Décryptage. Anne Cantner.
Bonjour à tous. Malgré les précautions, malgré le confinement de presque une personne sur deux dans le monde, le coronavirus continue de progresser de manière quasi exponentielle. Un peu partout, les soignants, les habitants ont donc besoin d'équipements, des masques, des blouses de protection ou encore des respirateurs pour soigner les malades. Le problème, c'est que beaucoup de pays en manquent et que tous veulent actuellement les mêmes produits au même moment. Le résultat, c'est une concurrence effrénée entre les États, la montée en puissance d'obscurs intermédiaires et des méthodes d'achat public complètement chamboulées. La compétition pour le matériel médical, c'est notre décryptage du jour. Bienvenue. Deux invités pour parler de ce problème. Laurence Folliot-Lalliot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste en commande internationale, et vous avez travaillé à la Banque mondiale comme juriste spécialisé dans les réformes des systèmes nationaux de marché public. Nous allons voir donc avec vous comment cette pandémie de coronavirus et le manque d'équipement médical changent la manière d'acheter et de vendre. Et puis nous retrouverons tout à l'heure une deuxième invitée pour parler de la réponse européenne, de ce que peut faire l'Union ou pas. Nous serons en ligne avec Isabelle Marchais, experte dans les affaires européennes à l'Institut Jacques Delors. Avant, donc, j'aimerais qu'on parle avec vous, Laurence Folliot-Lalliot, de cette concurrence folle sur l'achat de matériel médical. Le problème, donc, c'est que, évidemment, en temps de crise, tout le monde veut la même chose au même moment. Vous avez consacré une tribune à ce sujet dans le journal Le Monde et vous y expliquez notamment que toutes les procédures classiques sont abandonnées, en fait, en ce moment. Les appels d'offres, tout ça, c'est trop long en temps de crise.
Oui, tout à fait. Normalement, la commande publique s'appuie sur des règles bien précises qui sont là pour protéger l'argent public, hein, l'argent des contribuables. Elles exigent de la transparence, elles exigent des contrôles et elles laissent du temps normalement aux entreprises pour préparer leurs offres. Et il n'est plus du tout possible à l'heure actuelle de s'appuyer sur ces mécanismes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a normalement des règles qui peuvent s'appliquer en cas d'urgence, qu'on appelle des marchés de gré à gré pour urgence impérieuse. La difficulté, c'est qu'on a l'impression que même ces dispositifs sont en train de lâcher.
Alors, comment ça se passe si on sort des procédures classiques d'achat public ?
Eh bien, si on sort, c'est ce qui est en train de se produire dans plusieurs endroits de la planète. Ça veut dire qu'en fait, des fournisseurs ou des intermédiaires appellent directement les acheteurs publics au téléphone pour leur proposer des offres qu'ils doivent saisir immédiatement. C'est-à-dire qu'ils doivent, contrairement aux règles de la commande publique, s'engager à payer à l'avance au moment de la commande, sans avoir vérifié la fiabilité des produits proposés et évidemment en se retrouvant à la merci ensuite des délais de livraison et autres difficultés. Ils n'ont pas de recours et c'est cette difficulté-là qui aujourd'hui bloque en fait l'achat public à l'international.
Mais vous expliquez, Laurence Folliot-Lalliot, que cela inverse complètement les logiques de l'achat public. En fait, aujourd'hui, ce sont les vendeurs qui sont en position dominante.
Exactement. Et ça, c'est très intéressant. Enfin, ça, c'est le professeur qui parle, parce qu'on a une inversion totale du marché. Normalement, dans la commande publique, les acheteurs, ce sont les États, les collectivités locales, les grands établissements publics, les hôpitaux. Et en fait, ils ont en principe la possibilité d'organiser une concurrence entre différentes entreprises qui souhaitent leur vendre des prestations, des fournitures ou réaliser des travaux. Seulement là, la situation est totalement inversée. Les États se retrouvent, eux, à l'affût des offres qui leur sont directement envoyées par des fournisseurs ou des intermédiaires, qui donc ont la faculté ainsi de fixer les prix. Et évidemment, ces prix sont de plus en plus élevés. Et donc, on assiste à une enchère entre les acheteurs publics, non seulement entre les États, les uns vis-à-vis des autres, et certains États sont beaucoup plus riches que d'autres, mais même à l'intérieur des États, il y a des cas de concurrence, on va dire, entre des régions ou entre des hôpitaux qui, finalement, essaient, chacun dans leur coin, avec leurs moyens, de remporter des marchés et donc d'obtenir les fournitures tant espérées.
Donc chacun fait ce qu'il peut, les règles ne sont plus respectées et il arrive même, vous l'expliquez dans votre tribune, que des commandes publiques lancées il y a pourtant plusieurs semaines ne soient pas honorées parce que, entre-temps, le vendeur a trouvé preneur à un prix beaucoup plus élevé.
Exactement. Donc là, c'est véritablement de la spéculation à laquelle on assiste. Donc des commandes qui ne sont pas honorées, alors même qu'elles ont pu être lancées par les États au début de la crise, quand ils ont commencé à envisager des difficultés. Et finalement, ça n'est pas livré. Donc évidemment, ils se retrouvent dans des situations extrêmement compliquées. Et puis aussi, ce dont on entend parler, alors évidemment, ça n'est pas sur les places publiques, hein, mais c'est le fait qu'il y a probablement des stocks qui ont été constitués par des entreprises, des spéculateurs qui attendent en fait une montée des cours pour lâcher ces stocks.
Donc là, ce ne serait plus des émissaires d'État ou de structures hospitalières, par exemple, qui achètent, mais des intermédiaires ?
Oui, ce sont des intermédiaires, en fait, qui se rendent directement sur place. Dans les deux pays les producteurs de masse, c'est la Chine, hein, et Taïwan, mais c'est surtout la Chine. Et la Chine, donc, reçoit ainsi la visite d'intermédiaires qui viennent directement négocier auprès des entreprises, des fabricants, et qui essaient de remporter les lots. Et ensuite, ils contactent les acheteurs publics. Ça peut être directement les États ou d'autres acheteurs de niveau intermédiaire, je pense par exemple à des hôpitaux ou à des centrales d'achat, et là ils vont leur proposer les lots en question et le plus offrant remportera le marché.
Alors on voit que cette situation en fait se présente aussi quand ce sont des États ou des collectivités qui négocient. On a appris hier par exemple qu'une commande de masques qui était destinée à des collectivités françaises avait été rachetée à la dernière minute par des Américains dans des conditions qui sont assez incroyables, puisque les acheteurs américains étaient carrément sur le tarmac à l'aéroport et qu'ils ont payé en espèces et plus cher, évidemment, que ce qu'avaient payé les Français. Ça paraît complètement irréel comme scène.
Tout à fait, et c'est bien ce que je disais, on sort complètement des clous, évidemment, de la commande publique. On ne va jamais, normalement, acheter cash ainsi des produits qui sont à destination ensuite de l'activité de l'administration ou des usagers. Alors là, la difficulté, évidemment, c'est que c'est peut-être anecdotique, on ne sait pas si ce sont des officiels américains ou plutôt des entreprises ou des intermédiaires. Moi-même, étant spécialisée dans la matière, je reçois des offres sur Internet, de cabinet de consulting qui m'envoie en fait des descriptifs de masques depuis la Chine en me proposant des prix. Et c'est complètement hallucinant de voir ce démarchage direct.
Est-ce que ce genre de situation se reproduit dans d'autres pays ? On parle beaucoup, là il y avait l'exemple de la Chine et des Américains. Est-ce que ça arrive ailleurs dans le monde ?
Ah oui, bien sûr, ça arrive, évidemment, ça arrive dans tous les pays d'Europe à l'heure actuelle. En fait, dans tous les pays qui sont en ce moment dans une phase d'achat massif pour prévenir la montée de l'épidémie et qui se retrouvent tous finalement en concurrence entre eux. Et par conséquent, ces vendeurs savent parfaitement à qui s'adresser pour trouver preneur.
Alors, ce système dans lequel on vend au plus offrant. Allez-y, excusez-moi.
Oui, je disais qu'en Italie, j'ai des collègues qui m'ont effectivement raconté que ça se passait de cette manière-là, notamment dans les centrales d'achat de produits hospitaliers avec des démarchages directs et l'obligation, par exemple, de faire des avances, c'est-à-dire de déjà débloquer les fonds au moment de la commande, ce qui normalement ne se fait jamais en Italie, mais ils sont obligés d'aller au-delà des règles habituelles et ils se retrouvent dans des situations à devoir prendre des décisions très très rapide. Normalement, on a un système d'autorisation, ce sont des décisions de l'administration, il s'agit de mettre en place des garanties et des garde-fous. Et là, les acheteurs se retrouvent à décider tout seuls, très rapidement, est-ce qu'ils vont prendre ou pas ce lot dont ils ne connaissent pas les caractéristiques. Et ce qui fait que parfois, on entend aussi des problèmes avec des lots qui sont livrés, avec des produits, des masques et autres qui ne remplissent pas les conditions, par exemple, des labels européens. Il y a des tas de difficultés ensuite qui vont se poser dans des achats aussi rapides.
Oui, donc il y a des problèmes effectivement même en ce qui concerne la qualité après des produits que l'on reçoit. Ce système en fait d'enchères et où finalement c'est celui qui est prêt à payer le plus qui réussit à emporter les marchés et les produits met quand même de côté les pays les plus pauvres. Comment vont faire les États qui ne peuvent pas surenchérir ?
Bien, c'est une grande préoccupation à l'heure actuelle. Alors, sur le plan de l'organisation, notamment en Afrique, de nombreux pays ont déjà un système de centralisation des achats sanitaires et pharmaceutiques. Ça, c'est des centrales d'achat qui existent depuis longtemps. Et d'ailleurs, souvent en Afrique, on voit que ce qui fonctionne bien, ce sont les pharmacies. Donc, ils ont la structure institutionnelle, mais en revanche, il leur faut évidemment les moyens financiers pour se lancer dans cette espèce de compétition. Alors, les partenaires de financiers internationaux type banque multilatérale ont commencé à apporter des fonds. Chaque État lance des plans d'urgence en abondant des budgets pour pouvoir éventuellement faire face à l'épidémie. Mais effectivement, il y a un déséquilibre profond entre les moyens financiers dont disposent les pays riches et les pays les plus pauvres.
On va accueillir maintenant une deuxième invitée. Bonjour Isabelle Marchais.
Oui, bonjour.
Je le disais tout à l'heure, vous êtes experte dans les affaires européennes à l'Institut Jacques Delors. Même au sein de l'Union européenne, on a eu l'impression au début de la crise, et peut-être encore maintenant d'ailleurs, que c'était un peu chacun pour soi.
Oui, en effet, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt Madame Folliot-Laliot. Parce qu'au-delà de cet exemple qui est très frappant, donc de concurrence entre pays pour l'achat de matériel médical, il faut reconnaître que les Européens ont depuis le début de cette pandémie privilégié le chacun pour soi, avec différents exemples, fermeture unilatérale des frontières, confiscation de masques, refus de distribuer du matériel à ses voisins. Et cette attitude a eu un impact très négatif, notamment en Italie, qui est touchée de plein fouet par la crise sanitaire, et elle attise à juste titre les critiques contre le manque de solidarité européenne. Mais en même temps, je pense que c'est important aussi de remettre ces critiques en perspective. Tout d'abord parce qu'on a vu ces dernières semaines de vrais gestes de solidarité entre pays européens, avec des dons de masques et de tenues de protection, des rapatriements de citoyens bloqués à l'étranger. Il faut aussi voir, il me semble, ce qui se passe ailleurs face à cette crise qui est d'une gravité exceptionnelle. Aux États-Unis, certains États ont ainsi eux aussi fermé leurs frontières, donc ce n'est pas spécifique à l'Europe. Attention aussi peut-être de ne pas accuser à tort l'Union européenne.
Oui, parce que la santé, en fait, relève de chaque État européen. Ça n'est pas une compétence de l'Union européenne. Est-ce qu'il existe quand même, Isabelle Marchais, des outils qui permettraient aux Européens de faire face ensemble, en dehors de gestes de solidarité un peu isolés comme ceux que vous venez de citer?
Exactement. Vous avez raison de rappeler que la politique de santé est, à leur demande, une compétence exclusive des États membres. Donc l'Union européenne ne dispose dans ce domaine que d'une compétence d'appui qui prévoit pour l'essentiel des actions de coordination et de coopération, y compris comme aujourd'hui pour l'achat d'équipements médicaux. Et face à la pandémie de Covid-19, l'Union européenne essaie malgré tout d'agir dans la limite de ses maigres compétences pour limiter la propagation du virus, pour mettre à disposition du matériel, pour promouvoir la recherche. Et elle dispose en effet pour cela de différents outils. Vous avez d'abord un centre européen de prévention et de contrôle des maladies qui publie des mises à jour quotidiennes pour informer les autorités sanitaires nationales de l'état de la situation et pour examiner quelles mesures supplémentaires pourraient être prises. Ce centre héberge un système d'alerte précoce et de réaction que la Commission avait d'ailleurs saisi le 9 janvier sur l'épidémie de Covid-19. Un autre volet d'action très important concerne la recherche. 47,5 millions d'euros ont ainsi été débloqués pour le financement de 18 projets de recherche qui avaient été dûment sélectionnés et qui seront consacrés à la mise au point de vaccins, de tests, de traitements.
Il y a aussi un essai clinique d'ailleurs qui est en cours.
Oui, tout à fait. Vous avez différents. Alors, on a un essai clinique européen qui s'appelle Discovery et qui est coordonné en France par l'INSERM dans le cadre du consortium REACTing et qui a démarré le 22 mars. Donc l'idée est de tester 4 traitements expérimentaux contre le Covid-19. L'idée est d'inclure 3200 patients européens qui seraient issus de plusieurs pays comme la France, la Belgique, les Pays-Bas. Et ce projet permettra de compléter les données qui seront recueillies au cours d'un autre essai clinique international mené cette fois sous l'égide de l'OMS et qui est baptisé Solidarity.
Donc il existe quand même un certain nombre d'outils. Laurence Folliot-Laliot, est-ce que vous pensez que une sorte de régulation européenne ou même mondiale, hein, pourquoi pas, puisse se mettre en place?
La régulation européenne, je pense qu'heureusement, on a déjà des institutions qui peuvent éventuellement, effectivement, s'y atteler. Ça vient d'être expliqué par Madame Marché, il y a déjà des outils qui sont en place, notamment des programmes d'achat public conjoint qui ont été mobilisés. Mais à l'échelle internationale, évidemment, ça serait souhaitable, mais ça me paraît malheureusement aujourd'hui encore irréalisable. Il faudrait déjà qu'il y ait une solidarité entre les États. Malheureusement, la situation internationale ou du commerce international, d'une manière générale, ces dernières années, s'est plutôt dégradée. On est quand même rentré dans des phases assez protectionnistes. Et par conséquent, là, il faudrait vraiment un sursaut de la part de certains acteurs, notamment des États-Unis, pour qu'il y ait l'acceptation d'une régulation internationale.
Isabelle Marché, vous nous parliez des outils qui existent quand même au sein de l'Union européenne.
Oui, tout à fait.
Est-ce que l'Union aurait les moyens aujourd'hui de sécuriser, par exemple, l'approvisionnement en matériel médical ?
Alors, il y a d'autres outils, en fait, effectivement, comme vous le dites, qui existent. Et notamment, les 27 ont décidé dès maintenant de créer la toute première réserve européenne commune de matériel médical d'urgence, qui permettra de rassembler des respirateurs, des équipements de protection individuelle, des vaccins, des traitements, du matériel de laboratoire.
Ça, c'est nouveau, ça a été créé pour gérer cette crise du Covid-19.
Le principe d'une réserve avait été acquis, mais c'est la première fois que les Européens décident de mettre en place une telle réserve. Donc ça, c'est vrai que c'est un pas quand même intéressant. Vous avez un autre élément qui me semble important à souligner, c'est que la Commission souhaite aussi nouer des partenariats avec l'industrie. Donc elle a lancé un appel à la reconversion des chaînes de production vers la fabrication de matériel médical. Plusieurs entreprises y ont répondu, dans le domaine du textile, par exemple pour la fabrication de masques, dans le domaine de la parfumerie, pour la production de gel hydroalcoolique. L'industrie automobile, elle aussi, examine la possibilité de reconvertir des capacités dans la production de ventilateurs. Vous avez même des start-up qui ont proposé d'utiliser l'impression 3D à des fins médicales. Donc, c'est vrai qu'on voit différentes initiatives se mettre en place à cette occasion, qui pourraient par la suite peut-être être pérennisées. Mais pour le long terme, il faudrait sans doute passer à une vitesse supérieure, notamment en faisant ce qui a manqué cette fois-ci, en étant plus prévoyant, c'est-à-dire en créant hors urgence des stocks stratégiques de matériel de protection, des stocks de médicaments pour faire face le moment venu à de nouvelles épidémies.
Donc ça, Est-ce que vous pensez, Isabelle Marché, que cette création de stocks de médicaments, par exemple, et le mode de fonctionnement en général pourrait changer justement après cette crise ?
On peut l'espérer, c'est toujours un peu difficile de savoir ce qui sera fait une fois l'urgence passée, mais compte tenu de la crise exceptionnellement grave que nous traversons aujourd'hui, on peut effectivement imaginer que les Européens décideront, peut-être en tout cas réfléchiront, à mettre en place une véritable Europe de la santé qui pourrait passer justement par des outils de prévention beaucoup plus importants, avec un renforcement aussi de la coopération européenne, avec des ressources humaines, financières, matérielles plus importantes, avec une stratégie industrielle en matière de santé qui pourrait être pleinement autonome, ce qui impliquerait par exemple de relocaliser certaines productions pour réduire la dépendance, notamment évidemment à l'égard de la Chine.
Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous remercie d'y avoir participé. Isabelle Marchais, experte dans les affaires européennes à l'Institut Jacques Delors. Vous venez d'ailleurs de publier une note sur la crise du coronavirus et l'Union européenne qu'on peut lire sur le site de l'Institut. Et Laurence Folliot-Lalio, professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste en commande internationale. Un décryptage a été réalisé ce soir par Thibaut Baduel, attaché de production Florence Ponce, Gérard Perrault à la documentation et Patrick Adam pour la rédaction en chef. Un petit rappel avant de vous quitter pour limiter au maximum la propagation du coronavirus. Lavez-vous les mains régulièrement si possible, évitez les contacts physiques. Toussez dans le creux de votre coude et tenez-vous à distance des autres si vous sortez et si vous travaillez. Merci à tous d'avoir été avec nous. Portez-vous bien.
Vous écoutez RFI, les 19h30 à Paris.